France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza, France Musique.
Eh bien, bonjour, je suis Jean-Claude Casadesu, chef d'orchestre, et heureux d'être à France Musique.
Il est soliste aussi, Jean-Claude Casadesu, le premier qu'on va nommer pour l'Orchestre national de Lille, parce qu'il l'a aidé au tout début aussi, il était là, pas votre premier, mais un des premiers concerts. Mstislav Rostropovitch, c'est important d'avoir une figure comme ça, et avec lui en plus, qui a été, je crois, un ami.
Alors c'était tout à fait extraordinaire, parce que le premier concert, le 3 janvier 1976, quelques jours avant, je rencontre Rostropovitch, qui me dit « Alors toi, quoi faire ici? Moi faire concert, récital, moi faire... » Alors je lui dis « Moi faire concert aussi, moi faire premier concert avec un nouvel orchestre. » Il me fait « Toi faire concert, quand ?» Alors je lui dis « Dans 10 jours. »« Alors, moi pas faire récital, moi faire concert avec toi. » Ah, il m'embrasse sur la bouche, il me serre dans ses bras. Bon, il avait entendu parler de moi, il savait que j'avais déjà été dirigé en Russie, que j'avais été à l'invitation de Mravinsky avec l'orchestre de Saint-Pétersbourg, qui a été pour moi la première grande révélation d'un très grand orchestre. Bref, Rostropovitch, sachant que j'avais aussi du sang russe, sachant que j'avais fait quelques petites choses quand même, j'avais dirigé aussi l'orchestre de Paris, j'avais dirigé la radio, j'avais dirigé à l'opéra, il m'a fait confiance et... Devant tous les scepticismes de l'époque, qu'est-ce que c'est que ce nouvel orchestre? Qu'est-ce que c'est que ce type qui vient de Paris, etc. Tout d'un coup, il a fait taire tout le monde en jouant le concerto de Dvorak avec moi qui ai fait les tableaux d'une exposition pour ce premier concert.
Vous êtes resté 40 ans à Lille et tout construit depuis un orchestre qui faisait moins de 50 musiciens jusqu'à l'équipement complet, on va dire, qui est celui de l'orchestre aujourd'hui.
Ça a été une épopée. Oui, ça a été une épopée. Le départ n'était pas destiné à survivre. Parce que vous savez, je ne suis pas un haut fonctionnaire, donc il fallait quand même réfléchir à ce que, pour créer la confiance, on soit respecté au niveau de la gestion des fonds publics, dont j'ai exigé un commissaire aux comptes en 1976, j'ai engagé un expert comptable. Comme je vous l'ai dit, j'étais très seul au début, et j'ai pu engager un délégué général. En plus, après, j'ai pu engager un administrateur, j'ai pu engager un administrateur général, enfin, etc. J'ai un garçon qui a été administrateur de la Comédie Française qui a débuté avec moi, qui s'appelle Serge Sobzinski, avec lequel on a bâti pendant 3-4 ans les premières grandes années de l'orchestre. Mais ensuite, le développement s'est fait avec une formidable administratrice qui est Jacqueline Brochen, qui avait fait HEC et qui a été à mon côté. Et ensemble, nous avons pu mettre sur pied un projet qui n'avait pas pris une ride, en tout cas jusqu'à 2016. Et j'espère que ça va continuer. Donc, que ce soit régie, vous savez, il a fallu tout construire. Il a fallu prendre en compte les syndicats. Les syndicats sont forts dans la musique et dans le Nord, ils étaient très forts. Et donc les débats ont eu lieu, il fallait convaincre, il fallait... Voilà, ça a été des débats, des combats même souvent. Il fallait apporter la preuve que le futur que l'on pensait et que l'on voulait pour cette maison allait perdurer. Parce que c'est toujours ça, vous savez, il y a toujours la beauté du moment et puis ensuite qu'est-ce qu'on va faire dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Or je crois que la capacité d'un bon directeur, c'est toujours en anticipation de penser sa maison... 2 ou 3 ans en avance. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire.
We'll be right back. pourquoi il fallait une salle, absolument? Pourquoi il faut tout simplement une salle à un orchestre? Ça, les responsables politiques.
La salle, c'est l'instrument de l'orchestre. L'instrument d'un orchestre ou l'instrument d'une compagnie théâtrale. Et les paramètres sont absolument pas les mêmes. Il faut que ce soit sec pour le théâtre, il faut que ce soit légèrement réverbéré pour la musique. Il faut que le plancher ait une certaine attitude pour les danseurs, il faut que le plancher soit différent, enfin en tout cas soit solide et confortable pour les musiciens. Bref, en France, on a souvent voulu faire des salles polyvalentes en pensant faire des économies. Or, une salle polyvalente, c'est une salle qui coûte trois fois plus cher si on veut qu'elle soit bonne dans tous les domaines. Alors vous avez donc des aménagements à la Philharmonie de Paris, vous avez des aménagements dans la... Il y a deux salles, il y a une salle où il y a des panneaux à géométrie variable. Bon, tout ça nécessite de très grandes études. J'ai travaillé avec un formidable acousticien pendant 10 ans, mais j'ai surtout réussi à convaincre la région, avec l'aide et de Pierre Mauroy et de Daniel Percheron, d'édifier une véritable belle salle de concert dont Vadim Repine, qui l'a inaugurée avec moi... Il s'est promené un peu dans la salle, il m'a dit « Écoute, je crois que tu as une des meilleures acoustiques d'Europe. » Alors, peut-être sans aller jusque-là, je dirais qu'on a une des très très belles salles d'Europe et sans doute une des meilleures de France, sinon la meilleure. Ça a été formidable parce que pendant 30 ans, on avait une salle moyenne, pour pas dire médiocre. Plus une salle est moyenne ou médiocre, moins les musiciens qui s'entendent mal ont la possibilité de développer leur qualité de son, leur détail. C'est le détail. La musique, c'est fait d'une foule de détails qui doivent donner le sentiment d'un ensemble maîtrisé. Et de la même façon que l'articulation est une chose fondamentale pour les comédiens, mais elle est valable en musique. Dans une mauvaise salle, vous avez beau articuler, ou le son est sec, ou alors il est fondu, il est mélangé, et on n'arrive pas à identifier exactement ce que la musique normalement devrait obtenir. Donc voilà. Et alors c'est surtout là-dessus que j'insiste, c'est qu'on dit toujours « tout coûte cher, les budgets explosent ». Je vais quand même vous dire que pour avoir refait entièrement une salle de 1750 auditeurs, qui était autrefois une sorte de coquille Saint-Jacques et dont on a fait une boîte à chaussures, qui est en général la bonne formule pour une salle de concert, ça a coûté, tenez-vous bien quand même, uniquement la salle sans les dépendances, ça a coûté 14 millions d'euros, ce qui est peanuts. Cela dit, on a été d'une vigilance totale, on a été sur le tarmac, si j'ose dire, en permanence, avec les dépendances, disons que ça coûte 19 millions, 20 millions. Mais c'est rien quand vous songez au prix exorbitant que pour mille raisons ont coûté les salles parisiennes que nous connaissons ou les salles internationales. Le problème, c'est qu'il faut avoir, un grand respect des fonds publics, avoir des gens de confiance, de qualité et surtout ne pas interrompre les travaux. Ce qui coûte très très cher, c'est quand on lance des travaux, qu'on les interrompt, qu'il y a des débats, des tergiversations, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Non, je crois qu'en effet, il faut un grand plan de départ et puis essayer de s'y tenir, mais il faut le soutien des élus. j'ai beaucoup aimé travailler avec Boulez, j'ai beaucoup aimé des œuvres de Boulez. J'adore Dutilleux, j'ai enregistré plusieurs œuvres de Dutilleux, comme vous le savez. Dutilleux était un ami. Je me souviens d'ailleurs de l'enregistrement, le premier enregistrement de mon ex-orchestre en 1977. Nous enregistrons la première symphonie, premier disque de l'orchestre, et Dutilleux, très mécontent, me dit « Comment vous avez enregistré ?» J'étais en Suisse, je n'ai pas pu assister à l'enregistrement. Puis j'ai dit « Écoutez, venez, venez, je vais vous faire entendre la première mouture de ce que nous avons fait. » Oui, tout le monde. Enfin, il n'était pas content, mais il était en Suisse. Hein. J'y pouvais rien, nous, on n'avait que les séances d'enregistrement possibles. Alors il arrive chez moi, et alors je branche le magnétophone, et alors il commence à hocher de la tête, je le vois se détendre, je le vois sourire, je le vois « Ah oui, ça, non, ah, bah oui, d'accord, bon. » Et alors, absolument ravi, nous avons eu un grand prix du disque pour notre premier enregistrement, que j'ai d'ailleurs réenregistré depuis avec les Métaboles. Mais ça m'a fait plaisir, et lui aussi sans doute, de constater que, même lui n'étant pas présent, j'avais respecté du mieux que je pouvais ses indications. Sauf qu'à un moment donné, il me dit « Ah là, là, ça pourrait être plus vite. » Mais contrôle de métronome, j'avais un tout petit peu, d'une façon respectueuse, respecté ce qu'il voulait. Il m'a dit « Bon, bah, il faudra, si on le refait, il faudra le faire plus vite. » Très bien, ça sera avec plaisir. Mais il avait cette transparence, il avait cette formidable limpidité, clarté, qui est la caractéristique du style de la musique française.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Claude Casadesus.
L'Orchestre national de Lille, ça a duré 40 ans, on l'a dit, ça s'est terminé donc il y a 4 ans. Comment ça s'est fait cette fin de collaboration? Vous l'avez voulu, vous l'avez désiré? Est-ce que ça n'a pas été douloureux quand même de laisser quelque chose qu'on a véritablement créé de toutes pièces pendant 40 ans?
Alors, je suis âgé, et même si je ne fais pas mon âge, ce qui me fait très plaisir quand on me le dit, je me suis dit que à 80 ans, il serait raisonnable de solliciter du 109. J'en parle au président de la région qui me dit « Je vous interdis de partir. Vous faites partie du patrimoine national, régional. » Très gentil. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Mais vous partirez bien un jour aussi, vous, cher président. Et je pense qu'il vaut mieux que je décide de transmettre avant qu'on se dise « Non, d'une pipe, il est là depuis trop longtemps. » Ce qui, dans cette période de jeunisme effréné, engendre parfois un sentiment de dégagisme outrancier, comme vous le savez. Alors, je suis extraordinairement attaché à cette maison, je l'ai été beaucoup, que ce soit un peu douloureux, bien sûr, ça l'est forcément, mais que ce soit nécessaire, ça l'est aussi, et surtout, je voulais transmettre mes responsabilités avec un projet qui fait ses preuves et qui, j'espère, va perdurer, ce qui semble être le cas. Voilà l'habitude de ne plus en avoir, c'est-à-dire de ne plus être au fourneau tous les jours avec cet orchestre m'a été un petit peu difficile, mais je pense que c'était normal. J'ai décidé que quand j'aurai 80 ans, il fallait un terme. Alors, par contre, j'ai toujours un contact, Dieu merci, avec cette maison qui va perdurer, j'espère, jusqu'à ce que les forces me manquent, car cet orchestre évolue, cet orchestre se transforme, cet orchestre sous la direction du jeune Alexandre Bloch fait un bon travail, donc je continue de diriger deux séries, si vous voulez, par an avec eux, et éventuellement d'autres choses si on le souhaite. Je vais fêter mes 85 ans avec l'orchestre du Conservatoire à la Philharmonie de Paris début janvier. Mon anniversaire, c'est le 7 décembre. Alors, il y en a plein qui me le souhaitent au mois de juin, je ne sais pas pourquoi. Ça a dû être une erreur de Wikipédia, mais je vous le dis, c'est le 7 décembre, Pearl Harbor, l'ouverture de la Scala. Donc, c'est à ce moment-là que je serai en pleine préparation de cette fin de saison qui aussi m'a vu me décerner une rose. On m'a fait une rose à mon nom, ce qui n'est pas la moindre de mes fiertés, parce qu'elle sent très très bon. On a mis 2 ans à la construire, et je suis absolument ravi. Cette fleur qui est sans doute ma fleur préférée, qui va prolonger mon... Comment est-ce que je pourrais dire? Mon image.
Il s'appelle comment la fleur
Jean-Claude Casadesus.
Jean-Claude Casadesus.
Ah, tout bêtement. Tout bêtement. Mais Depardieu en a une, Catherine Deneuve en a une, Fanny Ardant en a une. Un certain nombre d'artistes ont été sollicités pour que l'on fasse une rose à leur nom. Alors ça, je trouve ça quand même assez, assez sympathique.
Voici.
Elle a cette capacité de vous arracher à votre propre univers, de vous faire rêver, et il n'y a pas la subversion des mots. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que je crois que la musique est la traduction la plus poétique de la vie, avec ses souffrances, ses voluptés, ses joies, ses rejets, sa tristesse, ses colères, et puis sa douceur. Il y a tout dans la musique. Et maman, qui adorait la musique et qui était une actrice merveilleuse, mais elle disait qu'elle pensait très sincèrement que de tous les arts, c'était celui qui pouvait suggérer le plus grand nombre d'émotions. Et je crois qu'on n'a pas dans notre pays, qui est un pays souvent intellectuel, tourné vers les arts, vers l'écriture, vers la peinture, vers la musique, qui est merveilleuse, la musique française. Mais curieusement, dans la culture française, il y a beaucoup d'efforts à faire pour que la musique devienne un pain quotidien et une nécessité de vie. Au cours de ma vie, j'ai pu constater à quel point, lorsqu'on arrivait à convaincre les gens qui pensaient « Oh, la grande musique, ça n'est pas pour nous », qu'à partir du moment où on les avait associés à cette émotion, leur vie avait pris un tour différent. Leur vie avait quelque chose d'embelli. Voyez, on n'est jamais tout seul avec la musique. La musique, elle peut vous faire rêver, elle peut vous améliorer, elle peut vous apprendre une meilleure connaissance de vous-même. Qu'est-ce que c'est que la culture d'une façon générale? C'est l'émancipation et c'est l'ouverture aux autres. C'est agrandir son propre univers. Et la magie des sons, la planète magique que représente la musique, est quelque chose qui peut totalement irriguer votre cœur, votre âme. Et je crois, on dit que la musique adoucit les mœurs, pas toujours, mais enfin je pense qu'elle peut contribuer à nous rendre meilleurs.
Dans votre intérieur, ici Jean-Claude Casadesus, on regarde, il y a beaucoup de livres, évidemment, il y a des partitions, il y a énormément de pendules, ça il y en a un peu partout, et puis des photos évidemment avec vous un petit peu, mais la famille, il y a votre maman qui est pas loin, puis il y a des enfants, beaucoup d'enfants, qui sont tous ces gens?
Alors écoutez, vous savez, je fais un métier où malheureusement le temps libre, maintenant j'en ai un peu plus, mais jusqu'à maintenant j'en avais très très peu, mais j'ai une richesse. Je possède une richesse formidable, elle a été mes enfants et mes petits-enfants. J'ai 5 petits-enfants, les dernières sont des petites franco-allemandes, puisque mon fils vit en Allemagne avec une très très jolie femme qui est médecin, ancien mannequin, mon fils Sébastien, qui lui est explorateur, qui lui est très concerné par la défense de la planète, qui a fait 2 livres magnifiques, Antarctica et Arctica, qu'il a parcouru dans tous les sens. Il se considère comme un des témoins sur la glace, par exemple, de la fonte des glaces. Et il appartient à des clubs très, très actifs pour la défense de la planète, ce que j'admire énormément, puisque ça fait partie de notre survie. Il a 2 petites filles, Bella Rose et Lilo Grace, qui ont respectivement 4 et 6 ans. Magnifiques, sont les 2 dernières. Ma fille a eu 3 enfants, Mathilde, qui est championne d'équitation, Mathilde Lockwood, la fille de Didier Lockwood, qui était un magnifique artiste, comme vous le savez, qui hélas nous a quittés il y a 3 ans. Et puis, ma fille Caroline, qui est chanteuse, David Enko et Thomas Enko, qui sont des pianistes et trompettistes, jazz et classique, je dirais, mais de grand talent. Et puis mon dernier fils, Olivier, qui a été une star d'Hélène et les garçons il y a une trentaine d'années. C'était Yo-Yo, il revenait d'Amérique où il avait eu un diplôme formidable de batteur de jazz. Et puis finalement, vous savez que malheureusement dans ces séries, on est pris, on est jeté un peu comme des serpillères. Et après un long moment de doute et de regret, de tristesse, il a fait une formation d'auto-trader et gagne sa vie tout seul sur les marchés avec la bourse. Voilà. Avec tous les dangers que ça représente et dont il ne manque pas de m'alerter. Mais enfin, c'est voilà, mes trois enfants sont, je vais pas vous dire qu'ils sont pas formidables, je vous mentirais. Ils sont une des grandes joies de ma vie. J'ai toujours le regret, c'est vrai, de ne pas avoir dans leur enfance eu suffisamment de loisirs pour vivre avec eux des moments que souvent les pères de famille peuvent vivre avec leurs enfants. Mais bon, le temps a fait que, et l'île de Ré aussi, qu'on se réunit tous chaque année et qu'on se retrouve avec l'évocation de ce qui a été le lieu de toutes nos joies d'enfance.
Dialogue du vent et de la mer, tel qu'on l'entend parfois, sans doute, sur l'île de Ré. Claude Debussy, La mer, c'était Jean-Claude Casadesus, avec l'Orchestre National de Lille. Ainsi s'achève cette série de grands entretiens, à la préparation Flora Sternadel, à la réalisation Christine Amado, à la prise de son Laurent Macchietti, au mixage Éric Boisset, et un grand merci à Jean-Claude Casadesus, auquel on fêtera bientôt, ce sera au mois de décembre, son 85e anniversaire.
À réécouter sur francemusique.fr.